Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Portrait d'adhérent, Biovallée.
Pour ce quatrième numéro de Il est une vallée, une série d'émissions réalisées par Radio Saint-Ferréol et Radio Diwa, nous nous trouvons à la ferme de Baume-Rousse sur la commune de Cobonne, chez Marion Haas et Stéphane Causon. Alors, tous les deux, vous menez depuis plus de 30 ans une activité agricole orientée en biodynamie. Et vous proposez également de l'accueil, des séjours de stage, de séminaires ou de formation, précisément dans ce dodécadome où nous nous sommes installés à l'instant. Et vous êtes enfin, et c'est aussi pour cela que nous sommes venus à votre rencontre, adhérents à l'association Biovallée qui a comme projet de soutenir et de promouvoir les actions qui s'inscrivent dans le mouvement de transition écologique. Bonjour Marion.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous dans ce très très bel endroit.
Merci d'être venu jusqu'à nous.
Oui. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est un peu vous connaître plus. Quelle est l'histoire de quelle est votre histoire dans ce lieu?
Alors nous, on est arrivé ici en 1987, donc on est dans la 34e ou 35e année. On est arrivé sur cette ferme qui avait été abandonnée pendant la guerre de 40 et qui avait été ensuite, on va dire, un peu laissée à l'abandon. On a eu avant nous un jeune couple de chevriers qui s'est installé dans les années 70 et donc qui a fait des chèvres pendant une quinzaine d'années. Ensuite, ils ont arrêté. Et nous, on est arrivés sur ces entrefaites avec un petit troupeau de brebis, nos enfants, enfin, un de nos enfants, et l'autre est arrivé plus tard. Et puis, voilà, on s'est installés, on a défriché, on a retapé, et on a mis en culture donc des plantes médicinales, des prairies, et ensuite un verger, des petits fruits, un jardin. Voilà, ça s'est mis en place petit à petit.
Alors, à l'époque, donc il y a plus de 30 ans, quel était votre idéal, votre envie?
Nous, l'idée, c'était s'installer comme paysan bio, parce qu'on n'imaginait pas faire les choses autrement, et polyculteur-éleveur, parce qu'on n'imaginait pas de l'agriculture, en plus de l'agriculture biologique, autrement qu'avec des animaux. Et aussi une production de plantes médicinales qui faisait partie du projet, on va dire, depuis le début, parce que, par affinité personnelle avec ce type de culture.
Voilà, et vous avez travaillé ardemment, j'imagine, auprès de votre troupeau et de ces plantes. Et vous continuez encore aujourd'hui?
Alors là, on est entré à l'âge de la décroissance. Pas encore la retraite, mais on s'approche. Donc on a fait du fromage de brebis pendant 25 ans. On a eu les brebis pendant une petite trentaine d'années. Avec aussi des vaches, des cochons, et puis la basse-cour. Et on a mis en culture une vingtaine de plantes médicinales, dont en particulier la lavande. On a eu jusqu'à 3 hectares. Et puis là, pour finir, on a fini avec à peu près 1 hectare, puis 5000 m². Donc voilà, l'idée, c'était d'avoir une production diversifiée, de marcher sur ses deux jambes, comme disait Mao, et pas mettre tous nos œufs dans le même panier, comme disent les bons paysans. Donc voilà, on a toujours eu plusieurs productions en fait, voilà. Et assez vite, au fur et à mesure de la restauration des bâtiments et des nouvelles constructions, on a commencé l'accueil, parce qu'il nous semblait que c'était important de pouvoir partager ce qu'on vit ici avec des gens qui vivent en ville, quoi, qui sont un peu déconnectés des réalités du monde de l'agriculture. Et du coup, ben voilà, on a été adhérents à Accueil Paysan pendant pas mal d'années, avec une chambre paysanne, un gîte paysan, une table paysanne. Puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et on a construit un gîte de groupe, on a construit le Dodécadôme, effectivement. Et du coup, là, on s'est plus tourné vers l'accueil de groupe en résidence pour des stages, des séminaires, comme vous expliquiez tout à l'heure. Oui.
Donc, alors, tout ça, c'est plein de choses. D'où vient l'énergie pour mener durant tant d'années et tous ces projets en même temps? Quel est votre secret?
Le secret, ben, j'imagine que c'est l'amour. l'amour familial, l'amour conjugal, l'amour pour la terre, l'amour pour l'humanité, et puis l'envie de partager tout ça. Je ne sais pas s'il y a un secret.
Alors, du coup, vous faites de l'accueil de gens qui ont sans doute besoin de se ressourcer. Et alors, vous leur transmettez quoi à tous ces gens?
Alors, on leur transmet quoi? Déjà, on leur donne l'occasion de sortir de leur quotidien, de se reconnecter à la nature. Comme vous pouvez voir ici, on est dans un environnement assez privilégié, assez sauvage, même si on a cultivé le sauvage autour de nous. Et il n'y a pas de pollution lumineuse, donc la nuit on peut voir les étoiles. En ce moment on voit le coucher de Vénus qui est magnifique, le lever de Jupiter, le lever de Saturne. Voilà, ben, rien que ces trois planètes, quand on montre ça aux gens qui sont là pour un week-end ou quelques jours, ça les bouleverse, tout simplement, parce que quand ils vivent en ville, ils ne voient plus le ciel. Et puis, ben, de pouvoir se promener au milieu de choses qui sont juste belles, quoi, d'avoir du... se baigner dans toute cette beauté, tous les ors de l'automne. Et puis, même si on n'a plus d'animaux maintenant sur la ferme, mais au moins de se ressourcer dans un bain de nature, pouvoir marcher dans la forêt. Voilà. C'est des choses qui sont très simples, mais qui manquent à beaucoup de gens aujourd'hui. Et puis nous aussi, notre levier, ça a été la question de la cuisine. Parce que on accueille des gens, et si on leur donne l'occasion de se relier au lieu où ils sont en mangeant des produits qui viennent de ce lieu, c'est extrêmement fort. En fait, voilà, on voit les légumes, quand on avait les animaux, on voit la traite, on voit tout ça. Et puis après, ben, c'est dans l'assiette, et c'est un moyen vraiment de se reconnecter à son environnement et de se ressourcer, de retrouver le sens de... Comment dire? Le sens de... De la logique, en fait, de comment les aliments arrivent dans notre assiette. Parce que quand on vit en ville, même si parfois on a la chance de pouvoir aller au marché ou d'avoir des relations à travers des AMAP avec des producteurs, ben souvent, en fait, l'alimentation est un peu déconnectée. C'est un objet. Mmh. Voilà. Et bon, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce petit livre vert.
Alors, on va en parler tout de suite. Mais pour continuer, je propose d'écouter un extrait du débat que Radio Saint-Férol a mené autour justement des questions de transition alimentaire, où était présent notamment Pierre Combris, chercheur à l'INRA, à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et je vous propose donc que l'on puisse en dire quelque chose juste après. Voilà, Pierre Combris.
Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Il n'y a rien d'inutile dans la lutte contre le climat, contre le réchauffement climatique. Et ce qui est intéressant justement avec l'alimentation, c'est que chacun peut agir à travers son alimentation tout de suite et gratuitement. Il n'y a pas besoin d'investissement. Pour rénover les bâtiments, pour changer nos systèmes de transport, il va falloir faire des investissements. Chacun devra d'ailleurs y participer à son échelle. L'État, les entreprises devront en faire. Pour l'alimentation, on peut immédiatement changer notre comportement alimentaire et avoir des résultats, parce que l'alimentation pèse lourd dans les émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent le climat, comme chacun sait maintenant. Et ce qu'il faut pour qu'on ait des changements majeurs, c'est que l'avant-garde qu'on a autour de nous ici dans cette vallée qui est magnifique, il faut que ces comportements se généralisent à l'ensemble de la population pour qu'on atteigne les ordres de grandeur qui permettront de régler le problème et en tout cas de limiter et de rectifier les ennuis et de rectifier la trajectoire sur laquelle on est, qui, comme je l'ai dit pour commencer, n'est pas bonne. On peut changer la façon dont on s'alimente, on peut changer la façon dont on approvisionne les cantines. C'est très bien, c'est indispensable, il faut le faire. Il faut aussi que les producteurs s'adaptent. Ça, forcément, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils changent leur façon de produire, il va falloir qu'ils changent aussi les orientations. Il y a tout un tas de choses qui prendront forcément du temps. Donc, bien sûr, il faut dire qu'il faut être plus radical, parce que c'est absolument nécessaire. Maintenant, on en a clairement conscience. Il faut aussi faire en sorte d'attirer le plus de gens, de faire comprendre aux gens que demain, ils ne vont pas se retrouver à faire des choses qu'ils ne savent pas faire, mais qu'on va les aider, qu'ils vont progressivement apprendre, se réorienter, qu'ils vont avoir des outils pour le faire le mieux possible. Et donc, c'est en ça que le terme de transition est aussi adapté, parce que toutes ces transitions prennent du temps.
Voilà Pierre Combris à l'occasion d'un débat mené par Radio Saint-Ferréol. Alors, Marion Haas, quelle est votre réaction à ce que vous venez d'entendre spontanément?
Ben, moi, je suis d'accord à 100%. Hein, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le propos de ce livre que j'ai écrit, donc, qui a été édité aux éditions du Rouergue. Et si ma fourchette pouvait sauver la planète, donc, qui se présente comme un guide de l'alimentation responsable, avec aussi des recettes. Et en fait, ce livre, c'est un guide. Voilà, exactement, parce que il y a eu une ou deux générations où la transmission en cuisine s'est perdue. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément de gens, pas forcément des jeunes d'ailleurs, des gens plutôt la quarantaine, ou qui ne savent plus cuisiner. Et moi, j'ai observé ça à travers les groupes qu'on a eu la chance d'accueillir pendant toutes ces années. On a servi quand même entre parfois 2000 à 3000 repas par an. Et les gens me disaient « Ah, est-ce que je peux avoir la recette ?» Je me suis dit « Bon, je vais faire un livre avec les recettes. » Et puis après, ils m'ont dit « Est-ce que je peux recopier les menus ?» Parce que j'ai une ardoise là, et sur l'ardoise, j'écris les menus. Et est-ce que je peux recopier les menus? Mais bien sûr. Et puis après, maintenant, comme on se modernise, les gens photographient les menus. Et donc, je me suis dit, dans le livre, il ne faut pas seulement mettre des recettes, il faut aussi mettre des menus. Et après, je me suis dit, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi voir comment bien s'approvisionner. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut avoir dans son placard, en fait? Parce que cuisiner, c'est simple. Ce n'est pas du tout quelque chose de compliqué. Mais simplement, il faut avoir ce qu'il faut dans son placard. Et il faut faire ses courses comme il faut. Si on achète des plats tout prêts, que ce soit des conserves ou des surgelés, déjà, diététiquement, c'est pas terrible. Et puis en plus, c'est extrêmement cher. Alors qu'avec cette petite méthode que j'expose dans ce livre, on arrive à avoir une empreinte carbone de notre assiette la plus faible possible. Quand on achète un yaourt dans un supermarché, il peut avoir fait 1000 km avant d'arriver dans notre assiette. Alors que si on achète soit du lait et qu'on fait soi-même ses yaourts, mais bon, tout le monde n'a pas envie, si on achète du yaourt sur le marché le samedi, que ce soit à Cray ou à Die, ou le mercredi à Die ou le mardi à Cray, eh ben, on a quoi? On a 10 km, on a 15 km dans notre yaourt. Donc, en fait, relocaliser ses courses, c'est aussi une manière de diminuer notre empreinte carbone. Et puis, notre fourchette a du pouvoir. Et si on arrête d'acheter des aliments qui viennent de l'autre bout du monde ou dont on ne connaît pas la provenance et qu'on met dans notre assiette des choses produites localement, eh bien, on a un impact effectivement sur le bilan carbone de notre assiette, donc sur le réchauffement climatique, et on a un impact aussi politique, et notre porte-monnaie a du pouvoir.
Mais vous êtes donc d'accord avec Pierre Combris quand il dit que c'est facile d'accéder à de la nourriture saine et de qualité?
Ah ben 100%, je suis 100% d'accord, mais ça ne suffit pas de le dire, il faut aussi avoir des outils. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'effectivement je me rendais compte que les gens étaient perdus.
Alors, il faut donc pour se nourrir et prendre soin de soi, d'après ce que j'entends bien sûr, c'est d'abord avoir des produits de qualité et sans doute qu'il y a aussi nécessité d'autres choses pour avoir le temps et le goût de faire la cuisine.
Alors, ça prend pas tellement de temps de cuisiner. En fait, c'est aussi ça que j'essaie d'expliquer, parce que là, j'ai tester. J'ai des menus, je les appelais les menus express, du genre je rentre chez moi le soir, il n'y a rien à manger dans le frigo, au secours. J'ai des amis qui s'annoncent à l'improviste, j'ai rien préparé, au secours. Voilà, donc j'ai des petits menus express, comme ça, si on a un placard bien rempli, et ben les petits menus express, le jour où il n'y a rien dans le frigo, il ne faut pas oublier qu'on a un placard. Voilà. Donc ça, c'est une chose, ça prend un quart d'heure, 20 minutes de se préparer un bon repas et pas plus. Alors que si on achète un truc tout prêt qu'il faut réchauffer, ben faut quand même le réchauffer un quart d'heure ou 20 minutes aussi. Donc finalement, ça coûte beaucoup plus cher et ça prend autant de temps.
Et n'empêche que j'ai malgré tout la sensation que pour faire la cuisine, il y a besoin d'encore d'autres choses et peut-être peu de gens le savent. Est-ce que vous pourriez en dire quelque chose? Non, il y a pas nécessité d'un peu de poésie.
Alors, bah, la poésie, sûrement, parce que pour moi, la poésie, ça fait partie de la vie. Et l'amour aussi, comme tout à l'heure. il faut cuisiner avec amour pour les gens pour qui on cuisine, même si c'est que pour soi tout seul. Il faut cuisiner avec amour pour soi, parce que la nourriture sera meilleure, on la digérera mieux aussi. Et il y a un point sur lequel j'aime attirer l'attention des gens, et c'est la question des tempéraments. Parce qu'autour d'une table, on est tous différents. Alors, il va y avoir des gens qui seront plutôt du type mélancolique, qui aimeront les choses plutôt salées, plutôt amères. Il y aura des gens qui seront d'un tempérament plutôt sanguin, qui vont aimer les choses acides, acidulées, pétillantes. Et puis d'autres qui vont aimer les choses plutôt molles, douces, sucrées, les flegmatiques. Et puis les colériques qui vont aimer ce qui croque. Et du coup, si on veut qu'un repas soit réussi, que tout le monde soit content autour de la table, eh bien, c'est intéressant de penser qu'on n'est pas tous pareils. Moi, ce que je vois souvent, des gens qui me disent « Ah, mais mon fils, il mange rien. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu lui fais à manger ?»« Oh, bah, des haricots verts, de la purée, etc. » Je dis « Mais peut-être qu'il n'aime pas ce qui est mou, qu'il aurait envie de mettre du croquant dans sa purée, des petits morceaux de biscotte ou du pain grillé. » Et souvent, en fait, l'explication est très simple. C'est qu'on n'a pas tous la même manière d'être autour d'une table parce qu'on n'a pas tous la même manière d'être au monde. Et voilà, si sur la table, on a des petites biscottes, du piment, du sel, du poivre, de l'huile, du vinaigre...
En tous les cas, de l'imaginaire. Et de l'imaginaire, est-ce qu'il... Pour avoir le temps de ça, le laisser émerger, est-ce que cela ne nécessite pas aussi des conditions de vie qui le permettent et un certain confort?
Moi, je pense que c'est une disposition d'esprit. Voilà, et c'est pas une question de largeur du porte-monnaie, ni de taille de l'appartement ou de la maison. C'est une disposition d'esprit. C'est une ouverture d'esprit, peut-être effectivement un grain de poésie... Ou voilà, mettre trois petits bouts de persil pour ramener un peu de couleur dans un plat qui est plutôt terne, ou trois pétales de soucis.
Voilà, et toute cette poésie peut s'apprendre certainement. Et d'ailleurs, avec Erdiwa, nous avons réalisé un petit documentaire autour des jardins cultivés collectivement. Parce qu'il nous a semblé aussi que pour ce qui est de la transition alimentaire, on pouvait se pencher sur la question du droit au jardin, du droit à cultiver des légumes pour pouvoir se nourrir de ce que chacun produit. Donc je vous propose d'écouter un petit extrait qui fait entendre un des bénévoles des Jardins Nourriciers, une association basée en Vallée de Quin qui a comme objectif de développer un modèle d'agriculture collectif en cultivant des légumes avec et pour ses adhérents. Alors on écoute au Jardin Nourricier.
Et du coup, j'imagine que ça a du sens pour vous, l'idée de collectif qu'il y a derrière les jardins nourriciers.
Tout à fait, c'est très fort. Et puis l'enjeu de demain, je pense qu'il est là. Hein. Il est autour de tout ce qui va nous nourrir, nous apporter de la substance concrète et matérielle. Quoi. Et ça, je pense que les générations qui arrivent, il va falloir qu'elles s'en saisissent.
Hein. Est-ce que... tu penses donc que la forme des jardins nourriciers pourrait, devrait être développée ailleurs?
Elle devrait arriver dans les écoles. Je suis un ancien instit à la retraite et je m'aperçois que je ne l'ai pas assez mise en pratique. Sur la fin, j'y ai accordé du temps, on a fait un petit potager à l'école, mais je pense qu'il faut ouvrir les écoles à ça, mais à fond, à fond, à fond, et pas perdre de temps.
Et qui c'est qui peut le faire ?
Les enfants, les premiers, c'est eux qui ont peut-être cette envie, cette demande. Il suffit de les suivre. Moi, j'ai beaucoup appris d'eux et je pense qu'eux aussi, instinctivement, intuitivement, ils peuvent apporter énormément de choses. C'est-à-dire à cette mise en place, à cette façon de ce rapport à la Terre, quoi, que moi, j'ai pas eu dans toute ma carrière et ma vie et que je découvre maintenant, quoi. Et il y a des choses qui me paraissent évidentes et faciles à mettre en place.
Comme quoi ?
Appréhender un morceau de terrain, se le faire sien et puis y aller, quoi. Planter des laitues, planter des radis, planter des salades, voilà. Et on voit le résultat immédiatement, quoi. On est investi de suite dans un résultat qu'on peut toucher, qu'on peut s'approprier très vite, quoi.
Voilà. Voilà, au jardin nourricier dans la vallée de Quin, Marion Haas, quel est votre sentiment là à l'écoute de ce témoignage ?
Ben, cet instituteur a absolument raison. C'est évident que si on pouvait partout dans les écoles, en tout cas dans nos milieux plutôt ruraux, apprendre dès leur plus jeune âge aux enfants à cultiver et leur apprendre à cuisiner, eh bien ça serait merveilleux. Après, la question du jardin partagé, c'est bien évidemment, qu'il soit partagé ou pas d'ailleurs, le jardin, c'est le premier pas qu'on peut faire après celui d'avoir relocalisé ses courses. C'est peut-être le premier ou le deuxième pas, selon comment on vit, qu'on peut faire pour relocaliser encore son alimentation. Parce que là, c'est zéro kilomètre. Entre la tomate du jardin et l'assiette, il y a zéro kilomètre. Donc on ne peut pas faire un bilan carbone plus fabuleux que de cultiver son petit jardin.
Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'avoir un jardin pourrait être un droit ?
En tout cas, avoir un accès à la nature, oui. Pour moi, c'est un droit. C'est les gens qui vivent coupés de la nature, ils sont amputés d'une partie d'eux-mêmes, puisque la nature est aussi en nous. Donc, vivre dans le béton toute l'année et ne jamais pouvoir se reconnecter à la nature, se ressourcer dans la nature, c'est une amputation. Donc, peut-être qu'effectivement, l'accès à la nature est un droit. Après, l'accès au jardin, encore faut-il en avoir le goût.
Alors donner le goût, transmettre l'envie et le désir même de cultiver, de mettre les mains dans la terre. Est-ce que vous avez des occasions pour vous, auprès de plus jeunes, de témoigner de votre passion, de votre activité, de ce que vous faites ?
Alors nous, depuis une dizaine d'années, on est aussi formateur en biodynamie, donc on a animé pas mal de choses ici sur la ferme autour du jardin biodynamique, de la transformation des produits du jardin, et on a aussi animé pas mal de journées de formation autour de la biodynamie, que ce soit démarrer la biodynamie sur sa ferme ou sur son petit domaine ou sur son jardin, ou autour des arbres. Donc on a fait pas mal de choses ici. Comme on n'a plus maintenant le lien fort qu'est l'élevage qui nous tient à la terre, ben on se déplace. Donc, on donne des formations dans des centres de formation agricole, un peu partout en France, enfin pas non plus partout, mais voilà, on se déplace, surtout vers l'ouest. Donc, on donne des formations autour de la biodynamie, en Bretagne, en Anjou, en Mayenne, et puis aussi dans le Jura, dans le Gard, l'Hérault, le Var... Voilà, on se déplace un petit peu.
Ouais. Voilà, alors vous êtes aussi, et donc on le disait tout à l'heure, adhérente à l'association BioVallée.
Tout à fait. Oui.
Et donc, alors quel est ce lien avec BioVallée ? Depuis combien de temps êtes-vous adhérente à BioVallée ?
Alors, je ne sais pas depuis combien de temps, mais en tout cas, depuis que ça existe. Voilà, donc je me suis un peu perdue dans le compte des années. Mais voilà, ça nous semble important. Cette association qui nous fédère à travers nos différentes communautés de communes aussi, parce qu'on est une vallée où il y a beaucoup de communautés de communes malgré tout. Et bon, on trouve ça intéressant, cette association qui nous fédère comme ça tout au long de cette vallée de la Drôme, cette belle vallée de la Drôme. Et puis, on est aussi signataire de la charte des éco-hébergeurs de Biovallée. Et ça nous semble intéressant aussi de travailler cette dynamique autour de l'éco-hébergement dans la vallée. Après, il y a beaucoup de domaines de travail autour de l'alimentation, autour du tourisme doux, auquel on essaie de participer à la mesure de nos moyens.
Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Alors, quels sont les domaines d'action dans lesquels vous intervenez précisément?
On n'intervient pas énormément, mais...
Mais où vous avez en tous les cas votre mot à dire peut-être, ou des choses à partager.
Voilà, on essaye de participer effectivement aux rencontres sur le thème des éco-hébergeurs, de la transition alimentaire... principalement sur ces thèmes-là, du tourisme doux, voilà.
Donc concrètement...
Des transports aussi, ouais. Mais bon, concrètement, c'est des rencontres au moment des assemblées générales, après ça peut être des petits groupes de travail, on s'est réunis. Bon, après, c'est vrai que ces deux dernières années, avec vous savez quoi, on ne s'est pas beaucoup réunis. Hein.
Bien sûr.
Ouais. Mais bon, voilà, après on a fait des échanges de mails, ou la visioconférence par ici, c'est pas terrible. Le câble est arrivé devant la porte, mais il n'est pas encore dans la maison.
Et est-ce qu'auprès de Biovallée, il y a des sujets que vous aimeriez aborder ou peut-être développer davantage?
Davantage, non. Je crois qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de thèmes qui sont sur le tapis. Et voilà, nous, on participe à la mesure de nos moyens. C'est-à-dire, pas forcément beaucoup de temps, mais on essaye d'avoir des idées, de les partager, voilà.
D'accord. Et en tous les cas, ce que j'entendais aussi, c'est que ça vous mettait en lien avec d'autres adhérents, d'autres acteurs de ce territoire, et ça, c'est sans doute important.
Voilà, c'est très intéressant. Par exemple, au niveau des éco-hébergeurs, on a eu des occasions de rencontres dans le Diwa, ou ici d'ailleurs, même aussi, au Dodécadome ou dans la région. Et c'est super intéressant de pouvoir se rencontrer entre éco-hébergeurs, échanger. Alors quelquefois ça peut être des petits échanges d'informations pratiques. Quelquefois c'est plus sur des thèmes de réflexion plus généraux par rapport à effectivement notre position dans une biovallée, dans la biovallée. Mais c'est très enrichissant au niveau humain. Parce qu'on est souvent tous le nez dans le guidon et on ne sort pas forcément beaucoup de chez nous. Voilà.
Alors maintenant, pour terminer ce moment de rencontre, je vous propose que vous nous présentiez un autre de vos ouvrages qui s'appelle « Rendez-vous le 2-02-2022 », qui était là en exposition dans cette salle où nous nous trouvons actuellement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous du 2-02-2022?
Alors c'est un livre que j'ai édité pour la première fois en 2012. Alors contrairement à l'autre ouvrage, donc le guide de l'alimentation responsable qui a été édité par les éditions du Rouergue, ça c'est de l'auto-édition. En fait, j'ai édité pas mal de livres moi-même depuis une bonne vingtaine d'années. Et donc celui-là, je l'ai édité en 2012. Et voilà, je vais vous lire la quatrième de couverture et puis vous allez voir. En 2021... La France est un pays ravagé par la guerre civile qui a sévi 10 ans plus tôt. La République a cédé la place à une dictature impériale féroce. Les villes sont devenues tentaculaires. Les campagnes sont abandonnées. La désolation? Pas tout à fait, car la résistance s'organise. Donc ce livre était épuisé. Et je me suis dit qu'évidemment c'est une fiction, une dystopie comme on dit, c'est-à-dire une utopie qui n'est pas très drôle. Mais voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de le rééditer parce qu'il me semblait qu'il y avait quand même un semblant étrange d'actualité.
Et en même temps, cette période de pandémie et de confinement à répétition nous a rappelé que la nature et notre lien à notre environnement et à la vie étaient à protéger plus que tout.
Mais en fait, dans ce livre, il y a ça aussi. En fait, il y a une petite fille qui vit avec sa grand-mère dans une grande ville, qui n'est même pas une mégalopole, qui est une gigapole. Mais en fait, elles ont su garder en fait, le lien avec la terre. Et donc voilà, ça se passe un peu à Montpellier, un peu au Larzac. C'est aussi c'est une histoire de quelque part de résilience et de force de la du lien avec la nature malgré la situation, on va dire, même si c'est pas tout à fait exactement ce qu'on vit nous aujourd'hui, mais il y a des petits airs de ressemblance.
Alors j'aimerais maintenant que l'on finisse ce moment d'interview en musique. Et quelle serait cette musique qui vous inspire et que vous aimeriez partager avec les auditeurs de Radio Saint-Féréol et Erdiwa?
Alors, mon instrument de prédilection, c'est la harpe. Alors, quelque chose avec de la harpe, peut-être Lorena McKennitt, par exemple.
Très bien. Merci beaucoup, Marion Haas.
Merci à vous.
Et à tout bientôt.
Merci d'être venu vous perdre dans notre belle vallée.
à la ferme de Baume-Rousse. Hein, avec tout plein de fées, peut-être.
Ça, c'est sûr.
Au revoir.